France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
J'ai une position négative dans la société qui est l'homosexualité. Et ta famille te tourne le dos, ça me ronge le cœur.
Je me casse parce que une fois que ma famille a découvert que moi je suis homosexuel, je risque vraiment d'être expulsé sur moi, ou bien même d'être bastonné, ou bien tabassé, ou bien même faire quelque chose de mal en fait.
J'ai perdu tout ce que j'avais. Mais tu n'oses pas rester dans ce pays-là et exprimer. Tu n'oses pas, sinon on te tue.
Elle est perçue comme une maladie, une malédiction ou encore une provocation. L'homosexualité n'a pas de droit de cité au Sénégal. Alors que le mariage gay existe depuis 2006 en Afrique du Sud, alors qu'en juin dernier, le Gabon a dépénalisé l'homosexualité, son interdiction est défendue par le président sénégalais Macky Sall comme une spécificité culturelle qui doit être respectée. Depuis 1965, le code pénal réprime les actes contre nature. Le terme officiel est flou, mais il sanctionne bien les relations entre deux personnes de même sexe de 5 ans d'emprisonnement. Pénalisée par l'État, l'homosexualité est aussi rejetée en bloc par les familles, par les communautés et les confréries religieuses qui régentent la vie des Sénégalais. S'afficher comme lesbienne, gay, trans ou bisexuelle, c'est prendre le risque de la prison, du bannissement, voire du lynchage. Alors, pour ne pas tout perdre, les minorités sexuelles se cachent. LGBTI au Sénégal, une vie au secret, c'est un reportage signé William Delesseux. Invité de ce grand reportage, le sociologue Patrick Awando, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à l'université de Yaoundé au Cameroun, vous êtes également chercheur invité à l'University College de Londres. Nous allons ensemble écouter d'abord le reportage de William Delesseux au Sénégal. Bonjour William.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
Alors je précise que les noms de tous les témoins que l'on va entendre ont été modifiés pour leur éviter des ennuis et votre reportage commence en France, William.
Oui, avant de se rendre au Sénégal, nous avons choisi de rencontrer les Sénégalais qui ont choisi de partir. De quitter leur pays d'origine, car au Sénégal, assumer son identité, son orientation sexuelle, c'est le plus souvent se faire traiter de corjigen. Homme-femme veut dire ce mot péjoratif en Wolof, la langue la plus parlée dans le pays. L'homosexualité serait même importée, disent certains, importée par l'Occident et même par la France durant la colonisation. Autant de représentations qui rendent le quotidien au Sénégal difficilement vivable, vous allez l'entendre, pour celles et ceux qui vivent avec une autre sexualité, Aurélie.
Donc avant de partir au Sénégal, rencontre avec Babacar, exilé en France.
Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons à Argenton-sur-Creuse, prochain arrêt, Argenton-sur-Creuse.
Argenton-sur-Creuse, une ville de 5000 habitants dans l'Indre, au sud de Château. Le parvis de la gare, non loin du centre-ville, c'est ici que nous rejoignons Babacar. Le Sénégalais d'une quarantaine d'années a trouvé refuge à Argenton après des mois d'errance en Europe.
Bonjour, ça va? C'est calme ici, hein? C'est la campagne.
Un blouson gris clair, un masque en tissu blanc sur son visage, l'homme est accueilli dans un centre d'hébergement géré par l'État. Babacar est un peu anxieux à l'idée de s'exprimer. Il a longtemps hésité à parler de sa vie d'avant, celle d'un homme marié au Sénégal, avant son exil en France.
C'est bien, je me sens bien ici. C'est un pays où il y a la liberté. Il y a la liberté d'expression. Il y a, par exemple, les droits sont pas bafoués. Donc, il n'y aura aucun problème. Moi, je me sens dans ce pays et je compte rester ici dans ce pays-là.
Votre départ du Sénégal, ça n'a pas été un choix. Vous y avez été contraint, c'était il y a environ un peu plus d'un an. Racontez-nous cet épisode.
J'étais marié avec ma cousine. Elle insinuait quelque chose, mais elle n'avait jamais eu de preuve. Le 30 avril, ma femme m'avait dit qu'elle devait, par exemple, aller voir sa mère. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et elle est partie. Bon, elle m'a dit, lorsqu'elle est partie, elle m'avait dit qu'elle m'a appelé en me disant que, bon, finalement, je passe la nuit là-bas. Et du coup, puisque c'était un samedi, bon, elle dit qu'elle va passer la nuit là-bas et elle va revenir le dimanche. Donc, puisque j'avais entre-temps quitté la maison familiale, on était dans un appartement non loin du quartier, avec une chambre et un salon. Les enfants dormaient dans le salon et moi, je dormais dans notre chambre. J'avais un copain, un pote, on avait l'habitude de se voir en discrétion, si j'avais le temps. Et du coup, je me suis dit que bon, puisque ça fait une semaine, deux semaines, on ne s'est pas vu, et ça fait l'occasion, je l'ai appelé. Je lui ai dit que, bon, viens, bon, aujourd'hui ma femme n'est pas là, on va essayer de se faire plaisir.
Les enfants sont partis, son ami arrive dans l'appartement situé dans un quartier populaire de Thiès, grande ville à l'est de Dakar. Pendant ce temps, son épouse prend la même direction. Elle n'a en fait jamais prévu de passer la nuit dehors et a tout inventé au téléphone.
On était dans la chambre, elle est venue précisément à 20h, 21h, et on était dans la chambre, et on s'amusait, on faisait l'amour. Et du coup, j'ai vu quelqu'un ouvrir la porte. J'ai dit, c'est qui ? Elle n'a rien dit, quoi. Elle a ouvert la porte et allumé la lampe. Et subitement, elle nous a vus dans une position inconfortable. J'étais tellement surpris que je n'imaginais pas. Je lui ai dit, mais tiens-toi, qu'est-ce que tu fais ici ? Elle m'a dit, ah bon, ce que les gens insinuaient, ce que je soupçonnais, finalement, la vérité est là. Donc, toi, toutes ces années-là, tu m'as caché ce truc-là. C'était horrible, c'était une humiliation. Parce que, bon, je ne pouvais pas m'expliquer. J'étais bouche bée. Parce que c'est comme si le ciel tombait sur moi. Et du coup, elle a crié. Elle a même failli tomber en syncope. Crier, elle est sortie, appeler ma tante, appeler son père, pour leur dire que la vérité est là. Et bon, ma tante est venue, elle m'a dit que tu as déshonoré notre famille. Elle a appelé mon grand frère, c'est l'aîné. Il a dit, Babacar est un homosexuel. On l'a surpris. Et du coup, il n'a plus sa place dans notre famille. Le père de mon épouse a dit, tu ne bouges pas ici, tu ne bougeras pas ici, tu divorces ma fille aujourd'hui et tout de suite. Toute ma famille m'a régné.
Babacar n'a plus rien. Son frère, qui est aussi son employeur, le congédie le lendemain. Sans revenu et sans famille, il quitte la ville, puis le pays.
Le lendemain, l'information s'est répandue dans le quartier. Et du coup, je ne pouvais plus rester dans le quartier. C'est l'humiliation que j'ai subie qui ne me permettait pas de rester dans ce pays-là. J'ai perdu tout ce que j'avais, ma femme, mes enfants. Mais tu n'oses pas rester dans ce pays-là et exprimer. Tu n'oses pas, sinon on te tue. Si je restais dans ce pays-là jusqu'à aujourd'hui, j'allais mourir, c'est sûr.
Au Sénégal, vous laissez également vos trois enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Bon, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir un papa gay. C'est compliqué. Mais néanmoins, je suis leur père. C'est une réalité. C'est une vérité. Mais je me sens fier parce que c'est une orientation. C'est quelque chose qui est inné, c'est moi. Je n'ai pas forgé ça. Je n'ai pas choisi ça. C'est ça. Donc, on doit me donner cette liberté-là. J'ai cette liberté-là. Mais un jour, ils sauront que je ne suis pas fautif. Un jour, ils sauront que je suis un papa qui les aime et qui pourra faire beaucoup de choses et qui veut faire beaucoup de choses pour eux.
Babacar demande aujourd'hui l'asile en France. Sa procédure est en cours d'examen par la préfecture, puis espère-t-il par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Rufisque, au Sénégal, dans la banlieue populaire de Dakar. Rufisque, ville côtière chargée d'histoire avec ses bâtiments coloniaux, ses anciens entrepôts de commerce aux façades noircies. Dans une des rues sablonneuses non loin du marché, celui que nous appellerons Ibrahima descend d'un taxi-moto, une mobylette Jakarta. Ibrahima, 26 ans, est homosexuel. Le jeune homme s'installe sur un banc public. Il a apporté avec lui un cahier d'écolier rouge.
Quand je suis seul, je préfère rester et écrire ce qui m'est arrivé et ce que j'endure en ce moment.
Sur les pages du carnet, le récit d'une découverte. C'était il y a 3 ans.
Bon, j'étais dans un hôpital de la place et le médecin m'a recommandé de faire le test VIH. Et bon, c'était vraiment difficile, mais je voulais le faire pour savoir ce qui m'est arrivé. Et par la suite, on m'avait dit que j'avais le VIH1.
Pour se soigner, le jeune homme a accès gratuitement au traitement antirétroviraux. L'argent qu'il peut mettre de côté est utilisé pour payer ses analyses à l'hôpital. L'équivalent d'une 100aine d'euros plusieurs fois par an. Plongé dans la précarité, sans emploi, le jeune homme n'a pas le choix. Il lui faut vivre avec sa famille.
Quand j'ai découvert que j'avais le VIH en 2017, je ne pouvais pas le garder moi-même. Je ne trouvais pas de solution. J'avais parlé à mon grand frère. Par la suite, il en a parlé à ma mère. Mais elle ne voulait pas accepter ça. Et depuis lors, jusqu'à présent même, elle n'accepte pas ça. Elle m'a dit, tu as été fautif et il faut accepter tes fautes toi seul. Tu ne vas pas salir le nom de ma famille. C'est ce qu'il m'a quand même dit. C'est ce qui m'a poussé en 2017 d'essayer de me suicider quand même. J'avais pris plusieurs médicaments, mais par la suite, j'ai dit que ça, c'est pas la solution quand même. Si Dieu m'a choisi de faire passer ma vie dans ces situations, c'est que je dois le surmonter quand même.
Vous constatez que votre famille ne sera pas solidaire de ce que vous avez vécu. Mm-hmm. Comment avez-vous fait à l'époque pour vous en sortir? Comment ça s'est passé?
Il y avait seulement l'assistance sociale de l'hôpital où je suis mes traitements qui me conseillait à chaque fois. Quand j'avais pris les médicaments pour me suicider, elle m'avait dit, c'est pas la fin du monde ou quoi. Faut juste que tu prennes ta vie en main. Tu n'es plus un gamin. Et depuis lors, j'ai pris ce conseil comme une arme. Je veux vraiment vivre. C'est peut-être ce qui m'a motivé à être présent jusqu'à ici. Même si ma famille n'accepte pas ça, je devais vivre avec eux. C'est la seule solution. Je ne fais que rester avec eux. Même si on me stigmatise, on me dit n'importe quoi. Parfois, quand il y a des actualités liées à des homosexuels au Sénégal, à chaque fois, ma mère en parlait avec un ton sévère, comme s'il disait, ils ont la vie foutue, personne ne va foutre ma vie. Je préfère te tuer la personne que le laisser foutre ma vie comme ça. Elle me disait chaque fois ça. Je vis une maladie qui me fait mal. Même si je ne le dis à personne, même si je montre aux autres gens que je vais bien, ça me ronge le cœur. J'ai une position négative dans la société que je vis, qui est l'homosexualité. Et ta famille te tourne le dos. Ces 3 choses me font vraiment mal. Je ne vois pas pourquoi il se comporte comme ça avec moi. Vraiment.
Mieux vaut se cacher. C'est en tout cas le choix de certains dans la communauté LGBTI pour éviter les persécutions du milieu familial. Direction Thiès, nous rejoignons Samir, 28 ans. Une chemise bleue, un pantalon gris clair, le regard vif. Samir s'installe dans un café.
J'ai grandi ici avec ma famille et tout. Chaque jour, tu te caches. Bon, il y a des choses que tu ne peux pas faire à la maison. Je n'invite pas quelqu'un à qui nous avons même orientation chez moi. Je ne peux pas l'inviter de venir chez moi. Voilà, juste pour sauver ma peau, en fait. Je me casse parce que une fois que ma famille a découvert que moi, je suis homosexuel, je risque vraiment d'être expulsé chez moi. Je risque d'être aussi enfermé ou bien même d'être bastonné ou bien tabassé ou bien même fait quelque chose de mal, en fait. Parce que c'est quelque chose que mes parents ne supportent pas du tout. J'entends très souvent que mon père dise que Bon, les gays, ce sont des personnes que Dieu a détestées de plus. Et puis, des propos comme ça, je me suis obligé de lever, d'aller sortir ou bien d'aller dans ma chambre pour ne pas entendre tous ces mots-là, parce que ça me blesse en fait.
Aujourd'hui, si on vous disait, si on vous proposait de quitter votre famille, de pouvoir vivre indépendamment, est-ce que vous le feriez ?
Bon, c'est la seule chose que je veux en fait. C'est la meilleure opportunité parce que je ne peux pas vivre avec ma famille à cause de mon orientation. Je ne peux pas. C'est eux qui sont vraiment le barrage qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire ou bien même de m'exprimer ou bien de donner tout ce qui est au fond de moi. Parce que à chaque fois que voilà, je prête attention à ma famille, c'est ça qui me bloque.
Le regard et la perception de la communauté autour de lui sont aussi difficiles à affronter.
Même si mon père me laisse vivre ma vie, dans ce quartier, les populations du quartier ne peuvent pas me laisser vivre avec mon orientation. Voilà, parce qu'ils s'impliquent aussi. Bon, ils vont dire que voilà, sinon ils vont contaminer. C'est ce mot-là qui me fait trop rire. Contaminer les autres garçons. Mais j'ai dit bon, depuis quand l'homosexualité est devenue une maladie contagieuse ?
Là, vous l'avez déjà entendu, le terme contaminer ?
Oui, parce que moi je l'ai entendu. C'est ma mère. Il a dit que voilà, on ne doit pas fréquenter les homosexuels. Sinon, tu vas être un homosexuel. J'ai dit attends, maman, c'est inadmissible, c'est absurde. Ce jour-là, il était énervé contre moi. Il m'a dit pourquoi tu les défends. Je dis bon, je ne les défends pas, mais en fait, ce que vous dites, ce n'est pas quelque chose qui est cohérent en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est juste. Elle était vraiment fâchée. Elle était vraiment fâchée contre moi parce qu'elle voyait que moi, je défendais même les homosexuels par rapport à son propos. Donc voilà, elle était tellement fâchée contre moi. Mais voilà. Mais en tout cas, moi, je le comprends, mais en tout cas, ça ne m'empêche pas aussi de dire ce que, voilà, ce que je pense, en fait. Parce que ça, je ne peux pas accepter qu'on dise des choses comme ça. Et voilà, notre culture aussi ne l'accepte pas. Et aussi, mon père fait partie parmi les personnes qui respectent beaucoup ces cultures-là. Et puis, en fait, on peut dire que dans notre pays, nous n'avons pas cette culture d'accepter l'orientation de quelqu'un.
Quel regard vous portez sur cette culture-là ?
Bon, je pense que, pour ne pas dire une culture de merde, mais bon, c'est une culture qui est vraiment, je n'arrive pas à comprendre. C'est une culture vraiment ancienne. Et actuellement, nous sommes au 21e siècle. Je pense qu'on doit même changer la mentalité et essayer de comprendre les personnes, de comprendre les vécus et de savoir que chaque personne a le droit de faire tout ce qu'il veut, a le droit de vivre sa vie sans problème, sans rien du tout. Parce que voilà, il y a des choses qu'on doit dépasser en fait. Je suis content de voir des personnes qui sont au moins voilà, dire que moi je suis ça, je vis avec ça et puis sans problème. La personne est libre en fait. Je peux dire la personne, c'est comme s'il était dans une prison et il est sorti. Donc voilà, il est libre. Mais si toi, tu n'oses pas à exprimer ou bien à montrer ton orientation, tu te sens comme un prisonnier en fait. Tu te sens comme un prisonnier.
Et pour Samir, pas question de sortir de sa prison pour l'instant.
Est-ce qu'il y a... C'est du vent, il n'y a pas de son.
Alexis et Dominique vivent ensemble depuis un peu plus de 3 ans. Toutes deux sont originaires de Côte d'Ivoire. Fin 2019, elles ont fui par la route les environs d'Abidjan, la capitale économique. Dans cet appartement de Thiès, au sommet d'un immeuble, sous un toit de tôle, Alexis, un soda à la main, explique avoir choisi le Sénégal un peu par hasard.
On a quitté là-bas un mercredi à 3h du matin. On est arrivé au Sénégal le samedi à 8h, 7h, 8h. Voilà, donc peut-être 3 ou 4 jours de route. Et le Sénégal, c'est quand même le pays qui était le plus éloigné, là où en tout cas notre argent pouvait nous envoyer. Parce qu'il faut dire qu'on a essayé de calculer, vu qu'on venait par la route, il fallait faire 4 jours de route. Voilà, et donc il fallait voir le pays qui était assez loin, mais qui rentrait aussi dans nos moyens. Voilà, et c'est comme ça qu'on a choisi le Sénégal, sans savoir là où on allait vraiment. Voilà. Et quand on voyait les Sénégalais à Abidjan, on se disait, ah, mais c'est un pays qui est cool et c'est loin. Voilà, et on pouvait payer aussi le transport jusqu'au Sénégal. Donc c'est ce qui a fait qu'on est arrivé ici. On ne savait pas que le Sénégal était un pays hostile. Et c'est arrivé ici quand on a été face à la réalité. Donc pour nous, c'est carrément impossible de vivre ici. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas simplement que des amis. C'est un couple et on aspire à la liberté.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a poussé à partir, à quitter votre pays natal?
Bon, d'abord, il y a eu la persécution. Voilà, je suis activiste féministe LGBT.
On vous connaît comme ça dans la société, en tout cas dans votre environnement proche?
Oui, la communauté LGBT me connaît. Voilà, la communauté LGBT me connaît. Je travaille aussi avec les usagers de drogue concernant la sensibilisation sur les hépatites, vu que je suis une personne vivante avec une hépatite B. Donc je fais la sensibilisation avec les personnes usagées de drogue. Voilà, et je ne me cache pas. Voilà, depuis 2015, j'ai décidé de m'assumer. Voilà. Et je vivais tranquillement jusqu'à ce que mes parents le sachent. Voilà, et là, j'ai dû faire face à un mariage forcé. Et j'ai été gardée à l'église pour une délivrance. C'est de là que je me suis enfuie.
Une délivrance? On voulait vous délivrer de quoi exactement?
Mes parents disent, parce que mes parents sont des doyens de leur église, ils disent que l'homosexualité, c'est une malédiction. C'est le diable et c'est ce qui m'a rendu malade. Donc du coup, si j'écoutais la parole de Dieu, j'allais être délivrée de ce mal-là et j'allais guérir de l'hépatite.
Alexis a contracté l'hépatite B en Côte d'Ivoire. À ses côtés, Dominique, un short gris et des cheveux tressés, se souvient de son quotidien.
C'était pas facile à la maison parce que mes frères n'acceptaient pas mon orientation. Parce que moi, depuis que je suis petite, je suis masculine même. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire être masculine ou féminine d'ailleurs?
Le genre, en fait. Voilà. J'ai le genre masculin. Voilà. Et je faisais encore le sport, donc ce qui faisait que ça me facilitait pas, je sais pas si ça me facilitait pas la tâche. Quand mes amis venaient à la maison, mes frères n'acceptaient pas. Voilà, les filles qui font le sport, ce sont des, elles sont comme ci, elles sont comme ça et tout. Et ils ont commencé à voir mes fréquentations et tout. Au début, ils me posaient des questions que je niais, je ne voulais pas dire que voilà, c'était comme ça. Et après, ça se disait dans le quartier que ah, votre petite sœur, elle a pris un chemin, franchement, essayez de la recadrer et tout. Et depuis ce temps-là, ça a toujours été les bastonnades, au fait. Voilà, parce que mes frères sont plus âgés. Le plus grand, mais il y a 10 ans entre lui et moi. Et entre lui et moi, il n'y a jamais eu un jour qui s'est passé sans qu'il ne me bastonne, au fait. Et depuis ce temps-là, quand j'ai atteint l'âge de la maturité, je ne voulais plus de ça. Donc, ce qui faisait qu'il y avait toujours la bagarre à la maison. Et mes sœurs qui ne disait rien, qui souvent même le défendait, disait que c'était pas bien et tout, ça c'est des trucs du diable, ça peut envoyer tout le monde à l'enfer, il suffit qu'une seule personne fasse ça dans une famille, ça peut envoyer tout le monde en enfer. Donc bon, il y avait beaucoup de bagarres, au fait. La violence a commencé en famille. Voilà. Et en 2004, je me suis fait agresser. Voilà, par trois personnes. J'ai été violée. C'est là que j'ai eu mon fils, qui a aujourd'hui plus de 14 ans. Voilà. Donc, tout ce mal-là a fait que aujourd'hui même, j'ai pas de contact même avec ma famille. Parce que après ça, tout le monde m'a carrément abandonné, en fait.
C'est au bureau des demandes d'asile que le couple apprend la condamnation de l'homosexualité au Sénégal. Alexis raconte l'agressivité du fonctionnaire qu'elles ont rencontré ce jour-là.
Quand on est arrivé là-bas, on lui a dit qu'on est venu chercher le formulaire pour réfugiés. Et il a dit pourquoi on voulait demander l'asile. Et on a dit que, bon, c'est moi qui suis rentrée la première, j'ai dit qu'on a fui. Voilà, parce que je suis lesbienne et donc j'ai fui mon pays parce que je ne voulais pas me marier de force. Bon, c'est le mot qu'il ne fallait pas dire. le mot lesbienne, homosexuel, ce sont des mots qui sont tabous ici, il ne faut jamais le dire, jamais. Et il a dit que, il a dit ici, ce n'est pas un pays pour les homosexuels, ni pour les lesbiennes. Que vous êtes des lesbiennes, vous êtes des lesbiennes. Tout ce que nous, on voulait, c'était avoir le formulaire pour remplir. Tout ce qu'il disait, franchement, on avait peur, on voulait fuir quand tu nous as rappelé. Il s'est adressé, il a agressé verbalement ma partenaire.
Depuis, Dominique est comme traumatisé par les persécutions, les insultes comme Gorjigan, mots péjoratifs pour les traiter d'hommes-femmes. Elle ne sort plus de l'appartement. Seul Alexis descend parfois faire les courses.
Parce que quand on en sent, la voix, elle me voit, ça commence à murmurer, à dire les mots, même si on ne comprend pas. Mais le premier mot qu'on a vu ici, qu'on nous a montré, c'était le mot Gorjigan. Et la plupart du temps, on entend ça dans les bouches. Ça s'accompagne de rire ou soit de regard. Le choix que tu as fait, tu es en danger. C'est pénible. Moi, il y a des jours où je ne dors même pas. Dès que j'entends un petit bruit, je suis déjà sur mes pieds. J'ai peur pour moi, certes, mais j'ai plus peur pour ma compagne, qui est déjà malade. Donc, aujourd'hui, je me dis qu'on a fui notre pays à cause de ce qu'on subissait là-bas, à cause de nos parents. Mais si on avait une idée, on n'allait pas venir au Sénégal. Franchement, ça a été la plus grande erreur qu'on a faite, mais on espère pouvoir quitter ici le plus tôt possible.
Le couple dit toucher une subvention donnée par une ONG, un montant qui leur permet de tenir et de payer le loyer. Le tissu associatif et communautaire pour les LGBTI au Sénégal n'existe pas officiellement. Toutes les activités des associations sont clandestines, davantage souterraines, pour échapper aux représailles ou pire, aux arrestations. Un réseau existe. Ils se rencontrent une fois le micro éteint. La plupart des responsables communautaires n'ont pas voulu s'exprimer dans ce reportage. Seul un défenseur des LGBTI répond à nos questions. Son nom, Djamil Bangoura, président de l'association Prudence Plus. L'homme a dû s'exiler à de nombreuses reprises. La rencontre avec lui a lieu bien loin du Sénégal. Le militant qui est aujourd'hui désabusé.
J'ai subi beaucoup de menaces, j'ai subi beaucoup d'agressions physiques, j'ai subi beaucoup d'insultes, des jets de prières, deux fois. Et je me battais, moi, je me battais à l'époque. Ici, en réalité, le respect de minorités sexuelles est bafoué à tout niveau. C'est ça la vérité. Ils ne travaillent pas, ils ne vont pas à l'école. Ceux qui vont à l'école, ils se cachent. Jusqu'à quand? Ceux qui vivent dans leur famille, ils le cachent. Ceux qui sont mariés, ils se marient par crainte.
Pourquoi la tolérance s'arrête justement lorsqu'on parle des personnes LGBT? C'est lié à quoi selon vous?
Moi je pense que cette tolérance-là, c'est un rêve pour moi. Parce que je n'ai jamais vu tolérer. Je peux prendre un exemple que je ne vais jamais oublier. C'est quelqu'un que je connais assez, qui est décédé à Thiès. Sa famille l'a enterré. Les gens du quartier sont partis, dirigés par l'imam pour aller déterrer cette personne. L'État ne défend pas, mais ni la société civile, ni les organisations de défenseurs des droits de l'homme. D'ailleurs, il y a des organisations de défenseurs des droits de l'homme l'ont dit devant nous, dans une ambassade au Sénégal. Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Ils nous ont dit carrément, dans leur feuille de route, nulle part c'est mentionné qu'ils sont là pour défendre le droit des homosexuels.
Le silence laisse la place à une seule parole autorisée dans les médias sénégalais.
Les homosexuels ne vont jamais prospérer au Sénégal. Que Dieu les élimine une fois pour toutes.
Il faut lancer un appel. On doit combattre l'homosexualité dans ce pays. On ne doit pas banaliser le phénomène. C'est un danger public qui risque de pervertir la société. Les homosexuels sont de la pire espèce. C'est insupportable. On doit tout faire sauf les propulser sur le devant de la scène.
En tant que religieux, je demande qu'au Sénégal, on corrige les homosexuels. Pas forcément qu'on les lynche dans la rue, mais qu'on les moleste du matin au soir, dans chaque famille.
Une parole sans complexe, légitimée par certaines associations religieuses. Mam Maktar Gueye est le vice-président de Jamra, une ONG islamique. L'homosexualité n'a pas sa place au Sénégal, d'après lui.
parce que c'est un acte contre nature. Dieu nous a créés hommes et femmes. Alors, il ne faut pas être égoïste. Dieu a créé le féminin et le masculin pour qu'on puisse perpétuer l'espèce. Mais si chacun se replie dans ses propres vices, dans ses propres, je ne sais pas comment qualifier ça, pour s'accoupler avec une personne du même sexe. Mais ça, ça augure même de l'extinction future même de l'espèce. C'est contre nature, à tout point de vue. Alors donc, ce n'est pas un hasard qu'il y ait 27% de sidéens. C'est encore une preuve que ce n'est pas une union qui est naturelle. Sinon, on n'aurait pas eu ce résultat scandaleux en termes d'infection au VIH.
C'est-à-dire, pour vous, le VIH, c'est une forme de punition divine, c'est ce que vous voulez dire?
Non, parce qu'on viole la loi, la nature. La nature dit que c'est homme et femme. Vous dites non, homme. Et la conséquence est là. Il y a des maladies qui apparaissent chez eux et qu'on ne voit pas chez les hétéros.
Mme McTargay dit enfin vouloir aider les homosexuels à s'en sortir en les faisant tout simplement renoncer à leur orientation. Des thérapies de conversion qui ne disent pas leur nom. Une pratique jugée plus que dangereuse par de nombreux travaux scientifiques. Dans son livre « Un dieu et des mœurs », l'auteur Elgas fait entre autres le récit d'un lynchage public d'un homosexuel de Casamance au sud du Sénégal. Nous retrouvons l'écrivain à Paris. Le rejet des minorités sexuelles et leur obligation de garder le silence sont encore enracinés dans le pays.
Les victimes collatérales de cette forme de barrière, de rempart, ce sont les homosexuels parce qu'on nie que la question, comme partout, elle est consubstantielle à l'humanité. L'homosexualité ne naît pas ailleurs, elle naît dans toutes les sociétés, elle ne ruisselle pas, elle ne vient pas de quelque part, elle existe, point barre, il faut essayer de conjuguer la vie avec. Et je pense qu'il y a une forme de démission devant la parole religieuse. Démission des autorités à la fois politiques, qui ont peur des autorités religieuses, parce qu'il y a une co-tutelle entre le spirituel et le temporel au Sénégal, et c'est que ces autorités morales-là sont dans un front, et dans ce front-là, il n'y a aucune forme de fissure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de progressistes au Sénégal, voilà, mais qui ne disent rien, qui n'osent pas prendre la parole en public pour défendre leurs convictions. Si on arrive à ériger un espace du débat, je veux dire de manière endogène, sans rendre compte à l'extérieur, nous aurons déjà fait un pas. Un pas n'est pas une garantie, mais c'est un début de quelque chose.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
Je suis journaliste. J'ai rendez-vous avec le ministre de la Justice au 7e.
Ministre de la Justice?
Oui.
Retour au Sénégal, au cœur du pouvoir, dans un grand bâtiment affecté à plusieurs ministères. 7e étage, celui du garde des Sceaux. Article 319 du code pénal sénégalais sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe.
Bonjour monsieur le ministre.
Le ministre Malick Sall écarte toute dépénalisation de l'homosexualité.
Il n'est pas question, en tout cas sous le magistère du président de la République Macky Sall, de revenir effectivement ou bien de légaliser l'homosexualité. Mais parce que tout simplement, la société sénégalaise ne s'y prête pas. Vous savez, on ne gouverne pas contre son peuple. L'homosexualité, en tant que pratique, je crois qu'elle a toujours existé dans toutes les civilisations. Ce que les gens ne veulent pas accepter, c'est d'avoir l'impression qu'on veut leur imposer quelque chose.
Donc en dépénalisant l'homosexualité, on leur imposerait l'homosexualité?
En dépénalisant l'homosexualité, on va à l'encontre de la philosophie actuelle du Sénégalais dans son ensemble, globalement. Il y a des exceptions, bien entendu. Mais globalement, aujourd'hui, la société sénégalaise est fermement opposée à ce genre de pratiques, tout simplement. Ces pratiques sont sanctionnées par la loi et le chef de l'État, le président Macky Sall, n'a pas l'intention, il l'a dit, de légaliser l'homosexualité. Pour le moment, il ne sera pas fait.
Pas question non plus de protéger les LGBTI victimes de violences ou de menaces. Dans ce contexte, impossible de revendiquer l'égalité. Le milieu militant sinistré manque de financement. Pendant ce temps, le système judiciaire n'a pas arrêté de cibler les homosexuels du pays. Une vingtaine de condamnations pour actes contre nature recensées par les ONG rien qu'en 2019. Dans son dernier rapport, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies incite le pays à prendre des mesures concrètes et urgentes pour s'attaquer à la campagne actuelle de haine contre les personnes du fait de leur orientation sexuelle, en estimant que l'article du Code pénal devrait être abrogé.
sama ginaw sama konje
LGBTI au Sénégal, une vie au secret, un reportage de William Delesseux avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, le sociologue Patrick Awondo. Patrick Awondo, est-ce qu'on peut parler de régression concernant la vie des personnes LGBT ces dernières années au Sénégal ?
Oui, absolument. Parce que le Sénégal a été au tournant des années 2000 à l'avant-garde de la prise en charge des personnes LGBTI face au sida. Le Sénégal avait offert des services spécifiques au moment où d'autres pays ne le faisaient pas et donc avait ouvert la possibilité d'une discussion publique de ces questions. Et au vu de ce reportage, on est clairement dans une situation de régression.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors plusieurs choses. D'abord, je pense l'une des plus simples, c'est que à chaque fois qu'une minorité, ça c'est historique, c'est pratiquement partout, chaque fois qu'une minorité politique gagne en visibilité dans l'espace public ou demande plus de gloire, il y a toujours cette forme de résistance et de backlash qui arrive. Et donc, en l'espèce, le Sénégal ne fait pas exception.
Donc, il y a l'effet réaction.
Il y a l'effet réaction. Mais il y a eu aussi, au courant des dernières années, une organisation d'un ensemble d'acteurs moraux dans la société qui se sont structurés pour répondre. C'est le phénomène qu'on appelle les mouvements anti-genre. Et au Sénégal, c'est très manifeste comment ces acteurs moraux-là, donc des religieux, des journalistes, des leaders traditionnels et parfois des politiciens, comment ils se sont mis ensemble contre ce qu'ils perçoivent comme étant une menace à la cohésion de la société à travers l'homosexualité. Donc il y a tout ce mouvement anti-genre-là qui est aussi très présent au Sénégal aujourd'hui et qui a répondu aux actes positifs qu'avaient posés les Sénégalais au début des années 2000 en ouvrant des services spécifiques pour les LGBTI dans la lutte contre le sida.
Alors, les religieux, est-ce que l'influence des religieux se renforce ? Est-ce que on peut dire que ce sont les religieux qui sont à la tête de ce mouvement de réaction ? Ou c'est plus compliqué que ça ?
C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai qu'ils ont souvent été beaucoup plus offensifs que d'autres acteurs. Il y a un épisode qui a été énoncé par, je pense, c'était Jamil dans le reportage, du jeune homosexuel qui avait été déterré, exhumé après son enterrement, ça avait été poussé par les religieux. Il y a eu d'autres épisodes, des marches organisées, le Conseil islamique qui avait été très offensif pour même renforcer le dispositif légal qui existe déjà. Donc ils ont été très offensifs, mais ils ne sont pas seuls. Le jeu des politiciens est trouble.
Pour des raisons électorales ?
Pour des raisons électorales, pour des raisons populistes aussi, oui, effectivement, parce que, comme le dit le ministre, ça peut être compliqué d'aller à l'encontre de ce que pense une majorité de la population poussée par ces religieux et tous les populistes qui cherchent à gagner en visibilité dans l'espace public.
Et alors, est-ce que c'est vrai que c'est ce que pense massivement la population ? Y a des études qui le prouvent ou c'est un discours dominant
C'est un discours dominant. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui ne pense pas grand-chose de la question homosexuelle et qui, pour des raisons évidentes, ne prendra pas la parole. Mais je crois que on ne peut pas dire que la grande majorité est homophobe. Il n'y a pas d'évidence de cela, mais on peut dire qu'il y a un certain nombre d'institutions qui ont un discours très réprobateur et très conservateur. Et ces institutions, pour le moment, malheureusement, sont fortes. Et c'est le cas des religieux, notamment.
Et là, on a aussi entendu la violence du discours médiatique, hein, William.
Oui, tout à fait. On a entendu tout ce discours-là qui est porté par des religieux. Alors, on a entendu un religieux tout à l'heure, c'était une autorité coutumière à Wakam, dans Dakar. On entend aussi Mme McTargay qui a pignon sur rue dans les médias. Est-ce que ce discours religieux, il vous surprend, Patrick Awondo?
Non, pas du tout. Pas du tout, il ne me surprend pas, parce que d'abord c'est le même pratiquement dans l'ensemble des pays de la sous-région et même plus loin jusqu'en Afrique centrale. Comme je le disais tout à l'heure, les religieux sont souvent, c'est l'autorité morale encore, et donc ils essayent de garder ce qu'il reste d'autorité, et l'homosexualité c'est un bouc émissaire facile.
On a l'impression que l'État s'efface devant eux. Est-ce que c'est aussi le signe, une faiblesse de l'État par rapport à eux?
Alors ça, au Sénégal, c'est quelque chose de très courant. On a vu souvent les autorités sénégalaises aller pratiquement demander l'assentiment de religieux, de leaders religieux lors de campagnes électorales. Il y a une espèce d'intrication très forte entre la culture religieuse et l'État au Sénégal, qui est manifeste en tout cas sur la question de l'homosexualité, de questions proches encore aujourd'hui.
Et alors pour les religieux, on entend bien, mais pour les familles, même, alors elles peuvent être évidemment très croyantes, mais qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui est inacceptable?
Alors pour les familles, le reportage le dit très bien, c'est le déshonneur. Ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 fort dans le contexte et au-delà du Sénégal, dans d'autres pays, c'est cette forme de déshonneur qui est totale, radicale et insurmontable. Qui fait que les familles, parce que dans toutes ces familles-là, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines, tout le monde n'est pas homophobe. Mais voilà, la minorité homophile s'efface face à la violence du discours homophobe et face à la peur nette. Et là, pour le coup, je vais utiliser le même mot que face à la peur de la contamination de ce déshonneur là au niveau familial, et je pense que c'est très saisissant dans cette culture là et il y a des racines dans l'islam mais pas que, ça rend difficile la vie des personnes au sein des familles qui sont souvent dans les études qui les concernent le premier lieu d'insécurité et de violence pour les personnes concernées.
Et est-ce qu'il y a eu une évolution du regard sur les minorités sexuelles?
Je dirais qu'il y a... La lutte contre le sida, notamment, a permis de lever le tabou sur la question homosexuelle. Pendant longtemps, l'homosexualité était souvent évoquée dans les faits divers de la société, ça et là, dans les journaux. Mais avec la lutte contre le sida et la forte prévalence du VIH parmi les groupes LGBTI, en tout cas pour ce qui est des hommes, on ne pouvait plus se voiler la face et on était obligé d'embrasser la question de l'homosexualité et donc d'en parler. Donc de ce point de vue, on a levé le tabou sur la question. C'est vrai pour le Sénégal, c'est vrai aussi pour l'ensemble du continent africain. Il y a aussi la présence de militants pro-homosexuels, féministes, en tout cas tous ces gens qui militent pour les droits sexuels et des minorités sexuelles et pour les droits de l'homme de manière générale, qui ont gagné en visibilité et qui donc ont permis de poser quand même sur la place publique cette question. Bon, ça ne garantit pas qu'elle avance à grands pas, mais enfin on en parle.
Alors on n'en parle quand même pas beaucoup, c'est ce que j'ai cru comprendre, William, c'est que ces associations militantes, en fait...
On ne les entend pas, on ne sait pas qui c'est d'ailleurs, c'était très compliqué, je vais vous raconter la petite histoire pour ce reportage, les coulisses, c'était très compliqué de savoir voilà, qui militait, qui s'occupait de quoi, qui représentait aussi la communauté, parce qu'il y a une histoire de représentativité. On a eu beaucoup de mal à avoir accès à toutes ces associations, à ce milieu militant qui reste extrêmement silencieux. Alors comme je dis, dans le reportage, on a pu les voir micro-éteints, c'est-à-dire sans tourner quelque chose, sans interview. Et on a été surpris par une forme de réticence, par une manière d'intégrer le fait qu'il fallait rester silencieux, par, par le fait que voilà, c'était admis, accepté, on ne parle plus aux médias puisqu'on nous a dit de ne plus le faire. Et pour pouvoir mener la lutte en coulisses, la nuit par exemple, il y a beaucoup d'actions qui se font la nuit, qui existent. Hein. D'ailleurs, c'est des actions de santé publique, c'est vraiment des actions au quotidien. C'est plus vraiment d'ailleurs des actions militantes, c'est des actions de santé. Et on a été assez surpris de voir ce silence. Et Patrick Rondeau, peut-être vous poser une question. Est-ce que c'est pas aussi le signe d'une certaine régression, ce silence ?
Oui et non. Oui, parce que, alors, pour revenir là-dessus, je pense qu'entre 2000 et 2010, il y a eu des militants beaucoup plus visibles. Et puis, il y a eu au tournant de 2008 un certain nombre d'événements, notamment des arrestations d'un certain nombre de militants qui ont causé beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu des accusations, notamment d'ONG françaises, pour le coup, qui avaient soutenu certaines de ces associations dans la lutte contre le sida. On a accusé le gouvernement français, enfin les ONG françaises d'impérialisme. Et à partir de ce moment-là, donc au tournant de 2008, il a fallu changer de stratégie. Donc à partir de ce moment-là, un certain nombre de ces militants se sont concentrés sur les communautés et sur la lutte contre le sida, effectivement. Et ont été beaucoup moins présents sur, par exemple, la demande de droits liés à l'orientation sexuelle. Et ont aussi décidé de mener des actions beaucoup plus souterraines, comme vous le disiez tout à l'heure. L'objectif étant de conforter les communautés, de les renforcer pour les années à venir, pour qu'elles puissent se désenclaver beaucoup plus tard de la question du sida.
Alors, le président Macky Sall dit que la société sénégalaise n'est pas prête à tolérer l'homosexualité. Dans les pays plus tolérants aujourd'hui vis-à-vis des minorités sexuelles, est-ce que c'est venu de la société civile ou de l'État ?
Les deux. Souvent, la société civile mène des activités, provoque des réactions de l'État. Et l'État doit prendre ses responsabilités, et c'est ce qui manque dans le contexte africain et notamment dans le contexte sénégalais. Il faut du courage politique, mais il faut que les dirigeants soient légitimes pour qu'ils puissent poser des actes forts et les assumer. Il se trouve que dans l'ensemble du continent aujourd'hui, une majorité de dirigeants, n'étant pas légitimes, doit subir le chantage d'une partie de la société, d'une partie de ces acteurs, notamment les acteurs religieux et les acteurs moraux qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il manque ce courage politique-là, mais il est lié à la légitimité.
Et alors, les pressions occidentales, comme conditionner l'aide au développement à une plus grande tolérance vis-à-vis des homosexuels, est-ce que ça peut marcher ou est-ce que ça peut au contraire être contre-productif ? Parce que récemment, Macky Sall a rencontré Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, et quand la question de l'homophobie a été abordée, lui, il a défendu sa façon de faire, les normes culturelles sénégalaises, et en disant, bon, chacun sa culture, respectez-nous.
Ce conditionnement de l'aide au développement, clairement, n'a pas marché. Ça a été contre-productif. Et d'ailleurs, les dirigeants occidentaux et les ONG occidentales, aujourd'hui, le savent. Et je pense que c'est une chose qu'on ne fait plus. Ça a été contre-productif parce que ça a conforté le discours d'un certain nombre d'acteurs conservateurs et qui se présente entre guillemets comme anti-impérialiste. Ça, on l'a vu au Ghana, on l'a vu dans des pays comme le Cameroun, on l'a vu ailleurs. Et donc, c'est clairement contre-productif.
Alors, qu'est-ce qui fonctionne ?
Ce qui fonctionne, c'est de renforcer les communautés au niveau local, en trouvant le moyen de les capaciter pour qu'elles prennent en main les combats et qu'elles fassent elle-même au niveau de la société, le travail qui est souvent long et difficile, mais qui est nécessaire pour arriver à inverser la stigmatisation et à arriver à mener les pays à la dépénalisation. Ça a déjà marché dans quelques pays. Ça a marché dans quelques pays. Il faut un tissu associatif fort et il faut des relais extra-communautaires, je veux dire des gens qui ne sont pas LGBTI, qui puissent amener la question dans le reste de la société et montrer que les droits sexuels sont des droits tout court. Et ces relais-là, aujourd'hui aussi, sur le continent, manquent cruellement.
Donc vous disiez que ça a marché dans quelques pays. Vous pensez, par exemple ?
Alors je pense un peu plus loin au Botswana, en Afrique australe. Alors c'est un tout autre contexte, avec l'influence de l'Afrique du Sud qui protège les minorités sexuelles. Mais ça a marché. Ça a marché en Guinée-Bissau aussi. Récemment au Gabon, ça a marché, même si c'était quelque chose de particulier. Il y a aussi
particulier pourquoi ?
Parce que le Gabon n'avait pas jusqu'en 2019 de dispositif légal contre l'homosexualité, contre les LGBTI. Et puis soudainement en 2019, ils ont introduit une loi. Donc un an exactement après, parce qu'elle causait plus de tort qu'elle n'en arrangeait, ils se sont vus obligés de l'abroger. Il y a d'autres pays où il y a eu des tentatives d'introduire des lois là où il n'y en a pas, comme en Côte d'Ivoire, au Mali ou au Burkina Faso. Mais dans ces pays, il y a quand même un tissu associatif qui veille et qui tire la sonnette d'alarme quand il faut.
Alors, si on regarde la carte du continent africain, là vous avez cité quelques pays, mais il y a une grande diversité de situations à l'échelle du continent, puisqu'effectivement, en Afrique du Sud, les homosexuels peuvent se marier, en Mauritanie, ils encourent la peine de mort. Est-ce que cette carte s'explique facilement ? Est-ce que, on va dire, les pays qui ont été colonisés par les Britanniques, ça se passe comme si les pays qui sont soumis à un islam très très rigoriste, ça se passe comme ça ? Non, c'est pas forcément comme ça que ça se décrète.
Non, c'est beaucoup plus complexe. Effectivement, il y a un point qui est intéressant, c'est que il y a une cartographie qui est liée à l'histoire coloniale. Là-dessus, on peut pas le nier. Par exemple, on constate que les anciennes colonies françaises sont celles qui ont le moins de dispositifs légaux contre l'homosexualité. Il y a beaucoup de vides juridiques au Mali, en Côte d'Ivoire, au Gabon, dans d'autres pays. Les pays lusophones ont des lois souvent très très fortes et les pays anglo-saxons ont beaucoup de dispositifs légaux. Oui. Donc il y a d'un point de vue historique quelque chose là qui est très très fort. Après ces dernières années, il y a eu des tentatives du fait de la poussée des acteurs religieux. Il y a eu dans des pays des renforcements de dispositifs légaux qui là clairement aussi sont traçables en lien avec la religion, notamment dans le nord du Nigeria, en Ouganda aussi, avec l'influence très forte des pentecôtistes. Mais une fois qu'on a constaté cela, après c'est beaucoup plus complexe parce que et beaucoup plus ambivalent parce que même dans les pays où il y a un vide juridique, parfois l'expérience au quotidien des gens n'est pas très très différente de ce qu'on a entendu dans ce reportage, et on le voit bien avec les deux Ivoiriennes qui se retrouvent à Dakar.
Oui, elles disent que venir au Sénégal, ça a été la plus grande erreur. Mais effectivement, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de loi contre, mais en réalité, le quotidien est très difficile. Et au Cameroun, pays que vous connaissez très bien, ça se passe comment ?
Le Cameroun est c'est l'exemple même de cette ambivalence aussi. C'est d'un point de vue juridique très proche du Sénégal. On a une peine de 5 ans qui a été renforcé en 2016 par un autre article de loi qui craque un tout petit peu les homosexuels sur Internet. Donc on a deux lois qu'on peut utiliser contre les homosexuels. Mais on a aussi au Cameroun aujourd'hui l'un des tissus associatifs les plus forts sur le continent, avec une présence d'associations identitaires qui travaillent, qui sont reconnues par l'État. C'est assez paradoxal. Mais qui peuvent être soumises aux humeurs aussi de consultations électorales, de la montée du discours de haine, etc.
Donc ça peut être assez fluctuant.
Ça peut être très fluctuant.
Merci beaucoup, Patrick Awondo. Je cite le titre de votre dernier livre, Le sexe et ses doubles, homosexualité en post-colonie, livre paru aux éditions de l'École normale supérieure de Lyon. LGBTI au Sénégal, une vie au secret. Le grand reportage de cette semaine était signé William Delesseux, réalisation Annie Bro, avec Anthony Thomasson à la technique. Merci beaucoup, comme chaque semaine, à l'équipe de la documentation de Radio France. Et vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.